Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Samuel Bernard, Caroline Bonin, Sarah Gier-Jacot, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère-Fontanille. Nous poursuivons notre série consacrée au territoire de la fête. Après avoir évoqué les carnavals en début de semaine, ceux de la Nouvelle-Orléans, à Salvador de Bahia, en passant par Cologne ou encore Viareggio, nous allons nous placer ce matin au croisement entre les forces de la fête et ceux de la puissance publique. On va s'intéresser au tourisme festif, aux questions liées à l'industrie de la nuit, comment les fêtes changent les villes, comment les villes s'emparent-elles des fêtes, de Berlin à Barcelone, entre contre-culture et politique touristique.
C'est la 9e fois que je me déplace pour le festival Sonar à Barcelone. Je viens chaque année car je pense que c'est le meilleur festival en Europe pour la musique électronique et les performances innovantes.
La Fabrique, c'est une institution culturelle et éducative. Et Londres sans la Fabrique, le monde sans la Fabrique, ne sera plus le même. Ils vont laisser un grand, grand vide.
Cela envoie un message très fort, qui est que la musique pour laquelle nous vivons n'est pas quelque chose d'estimé à grande échelle, et que notre culture n'est que très peu considérée. Et ça, c'est vraiment triste.
On peut vraiment compter sur la scène berlinoise. Chaque soirée est spéciale et différente aussi, mais en tout cas toujours cool. Faire la fête ici est chaudement recommandé.
Il ne s'agit pas seulement de faire la fête, c'est aussi un espace de liberté, un lieu où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et être vraiment eux-mêmes. Ce type de lieu n'existe qu'à Berlin. Je crois que ça n'existe nulle part au monde.
Le Sonar, un des plus gros festivals de musique électronique d'Europe qui se déroule à Barcelone. La Fabrique, ce club mythique des nuits londoniennes, menacé de fermeture après la mort de jeunes gens, mais aussi de très nombreuses plaintes de riverains. Mais on n'arrête pas la nuit ni la fête qui va avec. Le club devrait donc rouvrir avec des règles extrêmement strictes en matière d'entrée et de possession de drogue. On entendait également Félix Schanberger, un dessinateur qui a eu le privilège de brosser le portrait en dessin de clubbers du Berghain, le privilège déjà de pénétrer ce temple de la techno où pour entrer on doit s'armer de passer 3, 4, 5 heures d'attente pour souvent se faire refouler. Berlin, Londres ou encore Barcelone. Trois destinations phares, particulièrement privilégiées par ce qu'on appelle les City Breakers. C'est 18-35 ans qui s'adonnent à de courts séjours, 3, 4, 5 jours, dans des villes qu'ils usent sans relâche au point de les casser. Une catégorie de visiteurs devenue une cible incontournable des professionnels du tourisme. Le tourisme festif n'est pas une révolution en soi. La massive conquête touristique du monde est en cours depuis les années 80, boostée par la société des loisirs, par l'explosion des compagnies low cost et bien d'autres éléments encore. Or, ce tourisme festif modifie considérablement les urbanités qu'il investit. Alors, que fait la fête à la ville ? Son urbanité s'adapte parfois ou au contraire s'effrite sous un effet de saturation. La fête résistera-t-elle à l'afflux massif de touristes de la nuit? Comment concilier le monde des fêtards et celui des dormeurs? Est-ce que c'est possible? Voilà les questions qui vont nous intéresser ce matin avec nos invités. D'abord, Franz Stenbach qui est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup. Vous êtes entrepreneur culturel. Vous avez de nombreuses programmations à votre actif. Vous êtes notamment également porte-parole du collectif Action Nuit et puis vice-président du réseau MAP, Musique Actuelle de Paris. Également avec nous, mais en duplex depuis Montpellier, Dominique Rosa, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, responsable du master Tourisme et Développement Durable des Territoires et du programme de recherche Nuits Urbaines à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. J'indique pour les auditeurs que vous aviez co-dirigé en 2009 la fête au présent, mutation des fêtes dans le temps des loisirs qui était publiée chez L'Harmattan. Je vais commencer avec vous, monsieur le professeur Dominique Rosa, si vous voulez bien. On va commencer avec un tout petit peu de définition peut-être. De quoi parle-t-on quand on parle de tourisme festif? Comment le définir? Et à quand est-ce qu'on peut remonter pour en trouver les premières traces finalement?
Alors, la fête en ville, c'est quelque chose de très ancien qui naît avec la ville. Par contre, la fête plus ou moins permanente, récurrente, installée dans la ville, ça c'est consubstantiel à la naissance d'une certaine forme d'urbanité qui émerge vers la fin du 18e. On voit sous la Révolution se développer les bals. Mona Ozouf racontait qu'il y avait 600 bals permanents à Paris pendant la Terreur. Aux pires heures de la Terreur, on s'amuse beaucoup, on danse beaucoup. Par la suite, c'est Paris qui va être le modèle de cette fête sur le dernier tiers du 19e. Et là, on se met à découvrir l'attractivité de cette fête qui amène des gens riches de toute l'Europe. C'est la fameuse tournée des grands-ducs, grand-duc russe ou grand-duc anglais. Et à cette époque, la fête parisienne est le grand moteur du tourisme français. La France est déjà le premier pays au monde par son attractivité touristique.
Oui, et d'ailleurs, il faut rappeler, Dominique Rosa, peut-être, pardonnez-moi de vous couper, mais que le terme tourisme, il fait référence à ce fameux grand tour effectué par l'aristocratie européenne au 18e, et le mot touriste, il fait effectivement son apparition au début du 19e siècle, en 1803 pour être tout à fait précis. Alors, ça sera un tout petit peu plus tard en France, hein. Les premières traces dans les dictionnaires, c'est 1877. Mais évidemment, vous avez raison de rappeler que Paris est probablement à ce moment-là, dans ce 19e siècle, l'une des plus grandes, voire la plus grande place forte du tourisme festif. Mais finalement, ce que j'entends, c'est qu'il existe dès que le tourisme lui-même existe. Et puis, à la suite de Paris, on a deux autres grandes villes, Dominique Rosa, qui vont prendre le chemin de
dans
Paris.
Dans les années... Mais là, c'est après la Première Guerre mondiale, émerge Berlin, le grand Berlin des revues folles, de tout ce décalage. Et puis, émerge New York, Harlem, le jazz. Ça, c'est les années 20 qui construisent donc deux autres villes mondes de la fête, peut-on dire. C'est-à-dire que dans d'autres villes, on pouvait trouver de la fête, mais on ne trouvait nulle part la même densité festive que dans ces trois villes.
Dominique Rosa, je vais vous poser une question qui me paraît peut-être importante, et ensuite je la poserai également à Franz Steinbach. Parce que la question, c'est de savoir quelles sont les premières villes qui vont véritablement se montrer particulièrement inventives pour mettre en place des politiques touristiques volontaristes autour de la fête. Non pas seulement, j'allais dire, en profitant de l'essor des loisirs dans la ville, mais en créant une véritable cité de la fête dans laquelle le divertissement devient finalement une partie intégrante de l'identité de la ville.
Globalement, dans beaucoup de ces villes que je viens d'évoquer, là par exemple, il y a une certaine spontanéité. On a toléré, on a laissé se développer et il n'y a pas d'intentionnalité économique en termes de développement dans cet essor de la fête. Il faut attendre la fin du 20e pour qu'on en fasse un outil de développement. Le modèle à ce niveau-là, c'est Montréal. Montréal qui, dans les années 70-80, rate sa transition économique et est distancé par Toronto, sa rivale éternelle, et pour marquer son image, les autorités municipales décident de faire de Montréal une ville festive. Et on voit apparaître ce terme à ce moment-là, qui consiste à lancer une série de festivals qui se succèdent avec le soutien très actif de la municipalité, qui se succèdent donc tout l'été, de 15 jours en 15 jours. Alors on connaît le Festival du Rire, qui est un des plus importants au monde, mais c'est également les Francofolies, dont la délocalisation depuis La Rochelle est une grande réussite, et au total une dizaine de festivals dans l'été.
Franz Steinbach, sur justement cette intentionnalité, Dominique Rosa nous dit que c'est finalement seulement la fin du XXe siècle. Vous connaissez particulièrement les modèles culturels des villes européennes. Où est-ce qu'il vous semble que justement cette intention émerge d'abord en Europe ?
Alors l'intention émerge véritablement, à mon sens, autour de trois villes à peu près à la même période, peut-être juste après Montréal pour être tout à fait exact. Barcelone, Berlin et Londres se sont saisis très tôt, finalement, par rapport à leurs concurrentes, on va dire les autres capitales, même au niveau mondial, se sont vraiment saisies du tourisme de nuit et même du tourisme de fête, en étant très offensives. Je pense notamment à Barcelone, qui a longtemps eu pour slogan la ville où l'on ne dort jamais, et Berlin, qui récemment encore, j'en étais d'ailleurs assez étonné, sur des cartes de vœux qui doivent dater de 2015 pour souhaiter une bonne année 2016, du coup de la collectivité locale, hein, de Berlin et de Kreuzberg, qui montrait un visuel édifiant, hein, où on avait un rooftop avec plein de gens qui faisaient la fête, et le slogan finalement de cette carte de vœux était en anglais, et c'était Berlin, the place to party. Donc c'était vraiment, si vous voulez, symptomatique d'une intention politique avérée, très affirmée et très revendiquée, même sur venez faire la fête chez nous.
Ouais, donc ces trois villes, hein, c'est bien celles que j'avais repérées, Berlin, Londres et Barcelone. En la matière, peut-être que Paris est un petit peu en retard et on aura probablement l'occasion d'en parler un petit peu, puisque vous avez notamment travaillé pour le ministère des Affaires étrangères dans le cadre d'un rapport sur la vie nocturne parisiennes, en tout cas des villes françaises, comme facteur d'attractivité touristique, avec 22 mesures qui ont été proposées. On y viendra tout à l'heure, mais d'abord vous parlez de Barcelone. C'est vrai que c'est l'une des destinations touristiques les plus courues d'Europe. Il faut dire que ça fait longtemps que les autorités publiques, vous le disiez, ont misé vraiment sur le tourisme pour assurer son activité économique. On peut penser d'ailleurs de ce point de vue-là à 1992, aux Jeux Olympiques, où là, évidemment, la ville a su assez habilement miser sur cet événement. Sauf qu'aujourd'hui, on voit des chiffres du tourisme qui sont absolument colossaux et qui sont telles que la ville est au bord de l'explosion. D'ailleurs, ça fait longtemps que les habitants dénoncent justement les troubles provoqués par ce tourisme de masse. Écoutez.
Ils occupent nos maisons, on nous vire de chez nous pour qu'ils puissent s'installer.
Ils urinent dans la rue, ils se baladent nus, c'est une honte.
C'est 100 euros par jour l'appartement touristique. Et moi qui suis née dans ce quartier, qui souhaite y rester, on me demande de payer pour un studio de 30 mètres carrés 800 euros par mois. On ne peut pas payer ça. On voudrait qu'il y ait des sanctions, des amendes contre ces illégalités, qu'on nous rende notre quartier. Nous tous ici, nous voulons rester chez nous.
Une grande ville comme Barcelone ne peut pas se convertir en parc d'attractions touristiques. Ce serait la mort de notre ville. Nous devons donc préserver la mixité des offres des logements, mais nous devons aussi respecter le droit des citoyens à vivre dans leur ville.
Voilà, extrait d'un documentaire diffusé l'année dernière sur Arte, Barcelone excédée par ses touristes. Il y a des effets, en tout cas, très néfastes de ce tourisme de masse, parce qu'au-delà des nuisances pour les habitants, ce sont des quartiers entiers qui se vident progressivement parce que les gens, tout simplement, ne veulent plus y vivre. Il y a des travaux qui sont intéressants d'un démographe de l'Université Autonome de Barcelone qui s'appelle Toni López, qui nous explique que le Gótico, qui est l'un des quartiers très touristiques de la ville, eh bien, dans ce quartier, le nombre d'habitants a baissé de 8% en l'espace de 4 ans. Ce qui a pour effet évidemment de fermer ensuite les commerces de proximité et de tuer d'une certaine manière la vie de quartier. On n'imagine pas parfois les effets néfastes parce qu'on met toujours en avant bien sûr les gains économiques, mais ils sont absolument terribles en l'occurrence pour Barcelone, Franz Steinbach, et puis ensuite je demanderai à Dominique Crozat.
Alors oui, c'est vrai, en plus il se trouve que Barcelone, je travaille vraiment avec la collectivité depuis bientôt 5 ans, que ce soit la Generalitat, l'équivalent de la région ou la ville, hein, l'Ajuntament comme ils l'appellent. On a aussi un effet, c'est vrai, qui est très compliqué pour les résidents locaux, qui est l'envolée des prix de l'immobilier, qui ont doublé quasiment en 4 ans, ce qui n'est donc pas sans conséquence sur la vie quotidienne d'un Barcelonais qui souhaitait habiter certains quartiers très festifs. Voilà, le Barri Gothique, effectivement, le Raval, sont les premiers impactés indirectement. Après, c'est sûr, c'est ce qu'on appelle la gentrification. Donc, c'est un système, je dirais, sociologique très connu, très identifié. Il y a une ville qui en fait les frais en ce moment. On n'en a pas parlé parce qu'elle a été moins offensive historiquement, mais elle a voulu rattraper ce retard, je pense, à Lisbonne. Et c'est vrai que Lisbonne, alors là, c'est encore plus préoccupant du point de vue de la gentrification, puisque les prix en 18 mois de l'immobilier en plein centre sur les quartiers qui sont souvent ciblés par le tourisme de fête aussi, hein, puisqu'ils sont bien desservis, il faut comprendre ça, donc forcément ça attire parce que c'est simple d'accès, eh bien ils ont carrément doublé, et même on a fait la place, si vous voulez, à tout ce commerce Airbnb, etc., d'hôtellerie facile, entre particuliers, et les gens se retrouvent à acheter des studios pour les mettre en Airbnb. Donc,
Alors justement, et là je me tourne vers vous, Dominique Crozat, parce qu'effectivement l'une des conséquences, Franz Steinbach nous le disait, c'est l'augmentation des prix des logements, et notamment à cause des sites de location, c'est l'un des effets très néfastes, et l'une des mesures qui est prônée par donc la nouvelle mairesse de la ville, qui s'appelle Ada Colau, qui a été élue en 2015 avec le soutien du parti Podemos, c'est de parier assez ouvertement sur la décroissance touristique et donc de prendre des mesures pour limiter l'afflux de touristes. Et en l'occurrence, l'une des mesures fortes qu'elle a annoncées il y a quelques temps, c'est limiter les locations d'appartements loués sur les plateformes type exactement Airbnb dont on parlait à l'instant. Quel effet peut-on en attendre et est-ce que ce sera, selon vous, de nature à permettre de retrouver, disons, des niveaux raisonnables de flux touristiques, Dominique Crozat?
Alors, tout d'abord, signaler que Venise a connu une décroissance de sa population beaucoup plus importante encore que Barcelone. C'est la ville probablement la plus touchée par cette crise. Mais dans le cas de Barcelone, il ne s'agit pas de tuer la poule aux œufs d'or. Hein. Les autorités municipales sont lucides. Il s'agit d'essayer de reprendre le contrôle de la situation en faisant payer des impôts tout simplement sur leur activité économique par les gens qui louent les appartements et en évitant la construction de nouveaux grands hôtels sur les quartiers centraux. Mais sur toute une grande partie de la ville, en gros les deux tiers de la ville, on peut continuer à construire des hôtels, on peut continuer à créer du Airbnb. Mais c'est sur les quartiers centraux, Raval, Gotico que vous citiez, Barceloneta, que là on essaye d'avoir une action efficace parce que l'extrême concentration sur ces quartiers-là est explosive.
Est-ce que ça peut être efficace ? Est-ce que ça peut être suffisant, ces limitations de location d'appartements, selon vous ?
Disons qu'il s'agit d'essayer de diluer cette population touristique sur un espace un peu plus large. On peut supposer qu'on va y arriver un petit peu. Le problème, c'est que tous les pôles d'attractivité du tourisme, pour l'instant, sont concentrés quand même sur, sur l'espace central qui est sous tension.
Concentrés, et puis il y a effectivement les appartements qui sont loués, mais pas seulement. Vous parliez des hôtels. Moi, j'ai vu un chiffre qui m'a estomaqué, pour tout vous dire. En 15 ans, regardez les chiffres. En 2000, on avait 187 hôtels. En 2015, on avait 426. Voilà, donc ça a quasiment triplé. À ça, évidemment, on ajoute les pensions, les auberges, etc., etc. Il y a plusieurs questions, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et pourquoi la ville n'a pas été en mesure finalement de contenir ce qui ressemble quand même furieusement à une sorte de bulle touristique ?
Oui, c'est totalement ça, c'est une bulle touristique. Mais c'est aussi des politiques qu'on appelle politiques du laisser-faire. Et donc, c'est pour cela que la nouvelle attitude de la municipalité n'est pas finalement si révolutionnaire que cela. Il s'agit d'essayer de contrôler à peu près le mouvement.
C'est possible ?
Oui, parce que...
Je vais vous poser la question de façon plus scientifique, parce qu'on parle désormais de tourisme durable, et vous êtes bien placé pour ça, puisque vous êtes responsable de ce master tourisme et développement durable des territoires. D'ailleurs, à Barcelone, il y a une assemblée, j'ai appris ça, des quartiers en faveur du tourisme durable, qui milite pour ce tourisme respectueux, à travers des actions qui semblent d'ailleurs assez étonnantes. Par exemple, ils se retrouvent entre voisins, installent une petite table sur laquelle ils vont partager un café, lire un journal, discuter librement, en plein milieu d'une avenue où vont passer des milliers et des milliers de touristes sans savoir finalement réaliser ce qui est en train de se passer. Mais finalement, ça serait quoi un tourisme durable ? Le bon équilibre entre l'utilisation de la culture, des loisirs, de la fête, et puis le respect de la vie de la cité, du tissu social.
Dans le cas d'une ville comme Barcelone, qui est une très grande ville, c'est une meilleure répartition de ces touristes dans l'espace. Une dédensification du centre et un étalement sur des quartiers plus nombreux, plus larges. Parce que dans une grosse moitié de la ville, vous ne voyez pas un touriste. Donc si on peut aller envoyer du monde dans ces quartiers-là, trouver moyen de les faire loger de manière plus diffuse, ça sera un énorme progrès.
Ce serait quoi, Franz Stenbeck, du tourisme durable ? Et est-ce qu'il y a des villes là, tout de suite, auxquelles vous pensez et qui vous semblent être des modèles qui ont réussi finalement à trouver ce bon équilibre ?
Justement, je pense que, alors c'est vrai qu'on se retrouve à beaucoup parler de Barcelone, mais Barcelone est aussi très soucieuse de la qualité d'accueil des touristes. Effectivement, ce que vous disiez récemment, c'était, il s'agit pas de tuer non plus la poule aux œufs d'or. Parce que, évidemment, bon, on a parlé des mauvais côtés du tourisme de masse, qu'on peut appeler comme ça. Le tourisme de masse entraînant aussi du tourisme plus de, qu'on va appeler de niche, hein. Mais voilà, on peut labelliser globalement sur les flux touristiques. Maintenant, forcément, hormis même, je dirais simplement les revenus et les retombées économiques pour les collectivités, voire les résidents, il y a aussi d'autres systèmes très positifs qui se mettent en place, qui sont même vertueux. C'est-à-dire que ça permet de structurer de l'entrepreneuriat, ça permet de structurer des nouvelles initiatives. Je dirais qu'il y a aussi, après être passé par cette phase, vous savez, où toutes les marques très mainstream commencent à s'installer parce qu'elles sont séduites par le potentiel aussi, hein, tout bêtement. Une fois que ce système qui dure 2-3 ans s'est un peu appauvri, là, je trouve notamment à Barcelone, pour y aller tous les mois et la pratiquer, qu'il y a plein d'initiatives locales qui essayent de remettre un peu d'identité barcelonaise au goût du jour, version 2017, voire même peut-être plus, dans l'accueil, avec des produits locaux, quand on parle de gastronomie, voilà, des produits locaux bien valorisés, une certaine forme de qualité, je dirais. Je pense que le nivellement par le haut.
Qu'il y ait des efforts, j'entends bien, Franz Stenbeck, oui. J'entends bien, mais compte tenu de la situation aujourd'hui, compte tenu de l'augmentation terrifiante des logements, de la gentrification des personnes qui quittent leur quartier, soit parce qu'ils ne peuvent plus payer leur appartement, soit parce qu'ils ne peuvent plus vivre autour d'un brouhaha incessant, on peut pas franchement dire que c'est un
Alors,
bon
c'est vrai
exemple
que cette situation, je suis d'accord,
on n'est pas dans le tourisme durable, pardonnez-moi.
Maintenant, à Barcelone, on a réussi justement à délocaliser de plus en plus le touriste et à l'emmener dans des quartiers qui avant étaient traditionnellement très résidentiel. Voilà. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est très préhensible depuis 2 ans, peut-être. Et véritablement, je pense que c'est le seul moyen un peu de réguler. Parce que réguler, mis à part taxer, c'est bien de ça dont on parle, régulé, j'entends, par la collectivité, c'est souvent taxé. Une fois qu'ils ont taxé, ils passent à autre chose. Là, je pense qu'il y a vraiment une volonté, non seulement de concertation, et aussi, oui, d'essayer de, effectivement de diffuser ce tourisme un peu partout.
Dominique Crozat, je vous entendais
réagir. Il y a d'autres actions qui sont intéressantes. Par exemple, pour pouvoir assurer la sécurité nocturne des touristes, on a remodelé le réseau d'éclairage d'une grande partie du centre-ville, avec des rues plus éclairées que d'autres qui ont tendance à capter les touristes. Et du coup, on s'en sert pour irriguer des quartiers qui ne sont pas nécessairement ceux où on a déjà les fortes concentrations. On oriente des flux. Et on le retrouve avec justement cette idée d'une politique. C'est pas la politique actuelle de Barcelone, c'est pas une politique à court terme, c'est une politique à moyen terme et qui va porter ses fruits progressivement, mais qui est probablement plus sérieuse. Et en cela, elle est durable aussi déjà parce qu'elle ne vise pas une réponse à 2 ans.
Alors tout à fait.
Pour compléter, et puis ensuite on prendra la direction d'Amsterdam.
Pour compléter, effectivement, la ville de Barcelone est l'une des rares collectivités à ma connaissance qui a un département que l'on pourrait qualifier de R&D, recherche et développement, avec une trentaine de personnes qui travaillent sur des expérimentations, et c'est très juste, sur l'éclairage. C'est aussi sur des personnels qui vont accueillir parfois la nuit, faire de la médiation également auprès des passants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expérience. Il y a aussi le partage en temps réel d'une carte qui recense toutes les occurrences de bruit en toute transparence. On peut y avoir accès sur un site internet 24 heures sur 24. Et c'est vrai que ça aussi, ça participe à éduquer également les personnes.
On parle cette semaine des territoires de la fête aujourd'hui, de Berlin-Barcelone, entre contre-culture et politique touristique. On est avec Dominique Crozat et Franz Stenbach.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va prendre la direction des Pays-Bas et d'Amsterdam en particulier. En 2003, la ville, elle aussi excédée par ses flots de touristes, a lancé une expérience intéressante, la mise en place d'un maire de la nuit. On va retrouver donc Merik Milan, qui est toujours le maire de la nuit aujourd'hui, il l'est depuis 2012. Quel a été son rôle? Comment il défend les intérêts des fêtards en respectant ceux des riverains? Quels sont les conflits auxquels il a été confronté? Quelles solutions ont été retenues aussi? Merik Milan est au micro de Clémence Alezard.
On se concentre surtout sur la culture. On pense que si on se concentre sur la qualité, une qualité sur le contenu qui est programmé dans les lieux avec la musique en live, dans les boîtes de nuit, partout, alors vous aurez une audience d'un type différent. Donc ce que nous souhaitons, c'est essayer de comprendre quels sont les besoins de ces gens et essayer de les éduquer, essayer de savoir comment ils doivent se comporter dans la ville. Ce n'est pas une approche top-down, mais plutôt une approche qui part de la base. Alors on a un programme pilote qui doit durer 3 ans avec des animateurs d'arrondissement. Ce sont des hôtes qui patrouillent les rues tous les vendredis et samedis pendant la nuit. Et dans cette atmosphère intense de nuit et de fête, ils essayent de calmer des situations quand il y a un problème. Ils expliquent aux gens comment se comporter, mais ils essayent aussi de faire ça de façon amicale pour éviter les problèmes, par exemple parce qu'on ne peut pas boire dans les rues d'Amsterdam. Et ces gens sont des travailleurs sociaux, donc, qui essayent d'influencer la fête de façon positive et adaptée à l'espace public.
Autre priorité de votre mandat, Merik Milan, comment lutter contre la concentration des lieux de fête? Comment désengorger le centre historique d'Amsterdam?
Oui, on a l'idée de diffuser la vie nocturne aussi en dehors du centre-ville, dans la périphérie. La vie nocturne du centre d'Amsterdam est très dense et nous sommes évidemment obligés de nous concentrer sur cette partie pour diminuer la dose de bruit. Mais une des choses qu'on fait aussi, c'est qu'on a créé 10 lieux avec des licences particulières qui peuvent ouvrir 24 heures sur 24. Et les propriétaires peuvent choisir leurs horaires d'ouverture et de fermeture. Ces lieux ne sont pas localisés dans le centre, mais dans la périphérie, dans les zones qui peuvent être développées. Avant, la vie nocturne n'était pas vraiment adaptée à la création et au développement de nouveaux lieux. Ils passaient à côté des bases en matière de qualité, de contenu. Notre arrivée a fait un changement assez radical. Pour la première fois, nous avons donné les licences non pas sur la base du mobilier, s'il y avait bien un toit, un bar, un vigile en face de la porte, mais véritablement en fonction de la qualité de la culture offerte, la qualité du lieu. Et ces lieux sont multidisciplinaires. Ils ont un bar, un restaurant, un espace d'exposition, une boîte de nuit évidemment, et parfois aussi ils organisent toutes sortes d'événements culturels pendant la semaine. Ces lieux à licence 24 heures sur 24 1964 sont vraiment dédiés à l'usage fait de ces endroits et pas juste la fête en permanence. Et il y a deux aspects. D'une part, si le lieu peut décider quand est-ce qu'il ouvre et ferme, alors les gens à l'intérieur ne vont pas tous être déversés dans les rues au même moment, car ces lieux ont souvent une grosse capacité d'accueil, et s'ils se vidaient tous en même temps, on aurait une situation potentiellement ingérable. Alors que si les gens sortent plus progressivement, ce sera des groupes moins importants, et les boîtes de nuit aussi peuvent gérer la zone alentour, et ça c'est une des raisons. S'ils veulent cette licence, il faut qu'ils soient créatifs, multidisciplinaires, et qu'ils gèrent l'espace extérieur. Et ces lieux, aujourd'hui, sont sous les feux de la tension internationale, et ont un impact énorme sur la scène de la création à Amsterdam.
Vaste question, Mirik Milan, mais en tant que maire de la nuit, vous aurez peut-être la réponse. Est-ce qu'on peut vraiment régir, diriger la nuit ?
Non, je pense que c'est très important. Il faut planifier le plaisir. Bien sûr, la nuit est le lieu de l'inattendu et nous devrions garder une marge à ce niveau-là. Mais la nuit a vraiment des bons et des mauvais côtés et nous devons être honnêtes vis-à-vis des mauvais côtés pour pouvoir se concentrer sur les bons côtés. Et si nous sommes honnêtes à propos des problèmes, alors nous pouvons établir un dialogue, un véritable dialogue. Et quand il y a du dialogue, on peut changer les règles du jeu. Alors il faut défendre le plaisir et passer une belle soirée.
Soirée, c'est vrai qu'on peut en passer dans cette belle ville d'Amsterdam dont on entend là une petite ambiance. On entendait donc Mirik Milan au micro de Clément Salazar, qui est donc le maire de la nuit d'Amsterdam depuis 2012. Frank Stenbach, cette initiative mettre en place des maires de la nuit, est-ce que ça vous semble être une bonne idée? Est-ce que les initiatives qu'on voit là, par exemple à Amsterdam, vous apparaissent concluantes vraiment?
Alors oui, tout à fait. Je précise juste, maire de la nuit, pour nous, c'est quelqu'un qui est véritablement en charge au titre de la collectivité. C'est pas une candidature spontanée.
Il n'est pas élu.
Il n'est pas élu, il est nommé.
Par les citoyens.
Il se trouve qu'on avait appelé de nos voeux avec le collectif Action Nuit depuis les états généraux de la nuit en 2010 auprès de la ville de Paris d'avoir un délégué à la nuit, c'est chose faite, on en a un. Et il est vrai que cela permet, je pense, d'avoir en fait un seul interlocuteur pour parler à la collectivité, à la puissance publique, également au service de police et donc au service de régulation. Ce qu'il décrit est très intéressant.
Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre chose que de la médiation? Est-ce qu'il peut faire vraiment de la planification?
Il fait de la médiation, je dirais, rapide, puisque c'est plus autour d'une table qu'il va convoquer des gens, mais c'est pas pour ça qu'il va aller en profondeur. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on a créé les Pyros de la nuit, qui là vont vraiment auprès de plusieurs centaines d'établissements déjà les aider dans les rapports conflictuels qu'ils peuvent avoir avec les riverains, et puis aussi aller directement sur le terrain rencontrer les noctambules et les sensibiliser. Mais en fait, ce qu'il peut
ça
faire...
Ça fonctionne un petit peu mieux aujourd'hui, les Pyros de la nuit, parce que au moment où ça avait été mis en place, je me souviens d'un article ou deux qui avait été un petit peu dur vis-à-vis de cette initiative,
mais
considérant que c'était un petit peu comment dire, un peu naïf de penser que acteurs déguisés en clowns allaient pouvoir pacifier des situations parfois très délicates. Voilà, je vais le dire.
Bien sûr,
comme ça.
Bon, c'est toujours quand on simplifie, forcément, il y a des erreurs qui sont commises du point de vue des critiques. Et puis aussi, il est vrai que nous, c'était quelque chose de très innovant et d'inédit. Donc, il faut forcément se donner plusieurs mois, comme tout se fait avec l'humain en plus. C'est pas une machine ou une appli qu'il s'agit de régler. Donc, forcément, oui, là, ça fait 5 ans que ça existe. On les a installés aussi à Rotterdam, à Bruxelles, à Berlin, on a une vraie expertise, on travaille main dans la main avec les professionnels de la nuit, et c'est vrai que la partie un peu visible, ce sont les artistes la nuit, mais ça fonctionne.
Mais c'est pas ça.
Je reviens juste sur notre ami, le maire de la nuit d'Amsterdam, qui a parfaitement raison. Non seulement ça permet d'avoir une qualité supérieure, mais aussi, il est vrai que ne pas déverser les gens à la fermeture, c'est-à-dire à 2 heures à Paris, 1 heure ailleurs en France, est aussi contourner le problème de la nuisance massive à 1 heure dite. Parce qu'entre 1h30 et 2h du matin à Paris, la plupart des lieux vont fermer. D'accord ? Donc c'est vrai que ça, c'est une de nos revendications également. C'est-à-dire qu'hormis le maire de la nuit, il faut qu'il ait mandat pour réguler et non harmoniser la totalité des autorisations de nuit. Peut-être dans une même rue, on peut avoir des établissements qui ne fermeraient pas à la même heure.
J'entends Dominique Rosa qui nous dit justement que ça ne règle pas tout.
Évidemment.
En duplex depuis Montpellier, Dominique Rosa.
Voilà. Puisque dans la plupart des pays européens, on ne fume plus à l'intérieur, c'est une norme européenne, et donc on lâche dans la rue des gens qui vont fumer et qui vont souvent sur des centres historiques avec des rues un peu étroites, vont générer un bruit qui va être considérablement amplifié. Nous parlons de rue Canyon pour ce type de vieille rue, et là il y a une gêne qui est permanente toute la soirée. Alors sur la question de la régulation, parce parce que c'est plus une régulation qu'autre chose, il faut rappeler quand même que la mise en place d'une politique urbaine de gestion de la fête nocturne, c'est récent. Au tournant des années 90-2000 qu'on commence à vraiment avoir des politiques de gestion dans les municipalités des grandes villes. Et donc on a énormément avancé, ça s'est généralisé puisque les initiatives comme celle d'Amsterdam aujourd'hui, on en a dans une cinquantaine de villes en Europe.
Et le bilan est plutôt concluant.
Alors, le bilan est concluant, oui, quand on a une politique urbaine, on finit par avoir, si on prend la peine de réfléchir sérieusement, de mettre des partenaires sérieux autour de la table, et variés, on finit par avoir une action qui peut avoir des conséquences. Mmh. Alors, c'est sur deux axes qu'il a évoqué Amsterdam qu'on retrouve la plupart des politiques. D'une part, la question de la normalisation, les horaires d'ouverture et un certain nombre d'autres règles comme celle-ci, les municipalités sont en charge de cette gestion-là, donc ils sont dans leur rôle. Et puis, c'est sur la multiplication de districts festifs, c'est-à-dire de pôles secondaires de fêtes qui vont permettre de diffuser sur un espace plus large. C'est les deux modalités d'action qui sont les plus importantes, les plus fréquentes.
On a beaucoup parlé de Barcelone, on a parlé d'Amsterdam. Il y a une ville, évidemment, qui est centrale dans ces territoires de la fête. C'est Berlin, bien sûr.
Quand je pense à la Love Parade de 91, j'en ai des frissons. C'était nouveau de danser dans la rue sur une musique aussi forte.
La Love Parade était un rassemblement pour l'amour. Enfin, une manif pour et non pas contre quelque chose. C'était positif.
Les vitres tremblaient, les gens montaient sur les réverbères. On voyait beaucoup de corps dénudés et de fringues fluo. C'était l'invasion des aliens, du moins pour les passants.
C'était le délire. Les flics étaient scotchés à leur talkie-walkie, mais personne ne répondait. Ils me demandaient « Qu'est-ce que vous faites ?» On était 2 000, 3 000, donc pas tant que ça, mais pour nous c'était beaucoup. Partager les mêmes émotions avec autant de monde, c'était une expérience qu'on n'avait jamais vécue.
Extrait de ce documentaire, Les Murs du Son, qui avait été diffusé sur Arte. 6 000 personnes étaient réunies lors de cette 3e édition, beaucoup plus que la première, qui ne comptait que 150 personnes 2 ans plus tôt dans cette Love Parade, et beaucoup moins que l'édition de 1999, où s'étaient rassemblés plus d'1,5 million de participants. Cette Love Parade, bien sûr, née à Berlin, donc en 1989. Au-delà de la musique, cette première édition, elle avait pour but de manifester contre le mur de Berlin qui coupait la ville en deux parties. Et depuis la chute du mur, le milieu culturel berlinois bouillonne, bien sûr, se réapproprie sans cesse la ville d'anciennes usines reconverties en discothèques, des salles de coffres de banque et encore des piscines abandonnées deviennent des lieux mythiques de la nuit. On va prendre la direction justement de Berlin pour retrouver Boris Grésillon. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, professeur à l'université d'Aix-Marseille et actuellement chercheur associé au centre Marc Bloch et à l'université Humboldt de Berlin. Vous avez écrit un livre il y a quelques années, Berlin, métropole culturelle, qui était le résultat d'un long travail de terrain. Vous aviez rencontré des créateurs, des médiateurs du monde culturel berlinois. Il s'inscrit dans une réflexion plus large sur les métropoles culturelles européennes. L'une des spécificités que vous accordez à Berlin, c'est celle relative à cette dynamique permanente de la création, alors que d'autres villes, peut-être comme Paris ou Londres dont on parlait, sont davantage des villes de consécration culturelle, on va dire. Vous avez créé un article, Boris Grésillon, intitulé « Festivals et sociétés en Europe, 19e-21e siècle », et vous dites que Berlin est une ville qui, depuis longtemps, est très centrée sur la culture. Vous racontez, par exemple, cette chose qui est que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on commence la reconstruction de la ville et on commence pas par les hôpitaux, mais on commence par les salles de concert, par les théâtres. Ça donne une idée de combien la culture est consubstantielle à la ville de Berlin, Boris Grésillon.
Oui, absolument. L'exemple que vous prenez est très frappant, peut-être un peu osé, mais il est vrai. C'est-à-dire qu'au moment où on s'est mis à reconstruire la ville, et à reconstruire d'abord des hôpitaux et des écoles, on s'est mis au même moment, et pas 5 ans plus tard, à reconstruire les théâtres et les salles de concert. Mmh. Donc c'est vrai que la culture est consubstantielle à la ville, elle l'a été vraiment essentiellement, enfin, essentiellement, mais surtout pendant la période d'avant, c'est-à-dire sous la République de Weimar, entre 1918 et 1933, où, un peu comme dans les années 90 d'ailleurs, enfin, c'était un peu la thèse que je développais, mais il y avait une espèce d'effervescence artistique dans tous les domaines, dans tous les genres artistiques, de la peinture jusqu'à l'architecture, en passant par toutes les formes de musique. Berlin était absolument innovante. C'est-à-dire comme ça qu'elle s'est taillée une réputation, hein, et qu'elle a pu tenir la dragée haute à la fois à Paris et à Vienne, mais avec un profil très différent, c'est-à-dire un profil de métropole culturelle, justement, innovante, voire subversive. Et c'est ce profil-là que la ville a retrouvé dans les années 90, juste après la chute du mur.
Notamment avec l'utilisation, on va le voir, des festivals qui ont été au cœur de la politique culturelle de la ville. Mais aujourd'hui, Berlin, c'est évidemment une ville absolument incontournable pour faire la fête. Est-ce que c'est seulement le résultat, disons, de promoteurs d'une contre-culture, on parlait de la Love Parade, devenue progressivement d'ailleurs une culture mainstream, des promoteurs de cette culture-là qui ont su finalement attirer des visiteurs, et y compris des visiteurs étrangers, ou est-ce que c'est aussi le résultat, disons, d'une politique publique volontariste qui visait clairement à faire de cette ville un incontournable du tourisme festif?
Alors, ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que la culture à Berlin, et notamment tout ce qu'on a appelé la culture off ou la culture alternative, c'est une véritable success story. C'est-à-dire que finalement, on peut même dire que ce type de culture-là a été victime de son succès, au sens où en quelques années, on est toujours dans les années 90, eh bien, c'est vrai que de plus en plus de visiteurs, de touristes, qu'ils soient d'ailleurs allemands ou étrangers, venaient à Berlin parce que ils sentaient bien que c'était the place to be. Et qu'il se passait beaucoup, beaucoup de choses, notamment, c'est vrai, sur le plan festif et sur le plan notamment des musiques électroniques. Ensuite, c'est d'ailleurs très intéressant à observer, si vous voulez, puisque vous me posez la question des pouvoirs publics, je vous réponds oui, le rôle des pouvoirs publics a été important et il est très important aujourd'hui en tant que soutien de tout ce mouvement. Mais ce qui est très drôle, en fait, enfin drôle peut-être pas, mais c'est de constater que pendant ces fameuses années 90, les pouvoirs publics, j'ai envie de dire, étaient dépassés par le phénomène techno, par le phénomène de contre-culture, et les pouvoirs publics ont répondu comme ils le faisaient jusque-là, c'est-à-dire par la répression. Il y a quand même eu pas mal de clubs techno illégaux, hein, bien sûr, qui ont dû fermer parce que voilà, la police venait et revenait sans cesse. Donc, d'ailleurs, on assistait à ce jeu un peu du chat et de la souris pendant une dizaine d'années. Et puis ensuite, grâce au succès de toute cette scène, finalement, le Sénat de Berlin a enfin pris en compte le phénomène. Et surtout, il s'est dit, on a entre les mains une pépite. Ce serait quand même dommage de passer à côté.
Utilisons-la, évidemment, bien sûr. Ouais.
Utilisons-la.
Même si, aujourd'hui, on peut se demander si on n'est peut-être pas allé trop loin. Et on va y revenir et puis on va évoquer peut-être la place des festivals. Mais d'abord, je voudrais faire réagir Franz Stenbach et Dominique Rosa, qui évidemment connaissent Berlin et son rôle si particulier dans le tourisme festif dont on parle ce matin. Franz Stenbach.
Oui, Berlin, le slogan d'un maire précédent au début des années 2000, c'était « pauvre mais sexy ». Et c'était presque une phrase de campagne. Derrière, il y a effectivement eu la volonté de continuer à placer Berlin au centre de la fête, ce qui a marché. C'est vrai qu'il y a aussi eu une certaine audace de liberté de création, etc., qui est, alors en toute honnêteté, légèrement en perte de vitesse au profit de villes comme Hambourg et Cologne, qui essaient sans cesse de s'attaquer à ces mêmes touristes de fait. Même si c'est vrai que Berlin est une belle ambassadrice, je pense, de nos activités nocturnes, ça c'est certain.
Dominique Rosa, réaction sur Berlin?
La compétition avec Cologne est ancienne. Dans les années 90, Berlin va profiter de l'affaiblissement temporaire de Cologne sur les musiques électroniques pour justement en devenir une capitale. Mais ce qui m'intéresse dans Berlin, c'est aussi la capacité à mettre en place une structure d'accueil de ces touristes assez particulier. Et donc Berlin est la capitale européenne et probablement mondiale, également des auberges de jeunesse, des qui offrent plusieurs dizaines de milliers de lits, très bon marché, un peu partout dans la ville.
Oui, même si aujourd'hui, et là je me tourne vers vous Boris Grésillon, il semble que justement ces structures d'accueil soient aussi un petit peu dépassées. Et d'ailleurs on le voit dans les mouvements citoyens qui s'insurgent de plus en plus contre ces flux touristiques, Boris Grésillon.
Oui, absolument. On peut faire d'ailleurs un lien avec Barcelone. Hein. Comme vous le savez, la maire de Barcelone, si j'ai bien compris, vient de décider une mesure quand même assez radicale, enfin, en tout cas totalement neuve, c'est-à-dire l'interdiction de construction de nouveaux hôtels dans le centre-ville de Barcelone. Pourquoi ? Parce que la ville est vraiment tellement envahie par le tourisme qu'elle en devient ingérable. Alors Berlin n'en est pas encore là. Berlin a la chance de son espace, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que faut jamais oublier qu'à Berlin on a affaire à une ville immense. Donc forcément les troupes touristiques se répartissent quand même un peu partout dans la ville, même s'il y a évidemment certaines citadelles, certains quartiers qui sont particulièrement pris d'assaut.
Mais c'est intéressant, pardon, j'en profite parce que vous faites le parallèle avec Barcelone. Alors évidemment, vous dites que Berlin dispose d'un espace dont dispose pas forcément Barcelone. Il y a évidemment une concentration qui est pas du tout la même. Mais est-ce que les logiques sont pas les mêmes ? Vous dites à propos des festivals et de leur utilisation dans les politiques culturelles à Berlin, je vous cite, « La festivalisation de la vie culturelle peut être déchiffrée comme un avatar de la pensée libérale appliquée au territoire et à la sphère culturelle. » C'est-à-dire que pour vous, le festival, c'est la réponse au projet finalement de rendre le domaine de la culture le plus rentable possible, tout simplement. C'est ce que vous pensez, Boris Grésillon ?
Oui, alors bien sûr, il ne s'agit pas non plus de mettre tout le monde dans le même sac, et tous les festivals, notamment les petits, ne poursuivent pas cet objectif de rentabilité. Par contre, c'est vrai que la ville a vraiment favorisé depuis 20 ans la création de festivals un peu partout et surtout dans tous les domaines, avec là aussi un phénomène presque paradoxal, c'est-à-dire que à force de mettre l'accent finalement sur des highlights comme sont les festivals, comme sont aussi les très grandes expos, les grandes rétrospectives, on se rend compte que les musées en semaine sont vides, par exemple. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis que on est à un moment, à mon avis, à un moment assez charnière dans l'histoire culturelle de Berlin, au sens où les pouvoirs publics sont en train de se rendre compte qu'on a peut-être été un peu trop loin, et qu'effectivement, pour revenir à ce que vous disiez, en plus, ils sont obligés de prendre en compte le fait que des habitants de Kreuzberg, notamment, et quand je dis des habitants, c'est plus que ça, c'est des associations, notamment des associations d'habitants très très dynamiques, ont vraiment protesté très très vigoureusement contre les touristes.
Et comment réagissent les politiques ? Est-ce qu'il y a des partis politiques qui justement entendent précisément ces revendications et d'une certaine manière portent des projets pour contrer justement ce flux touristique ?
Alors, puisque je prenais l'exemple de Kreuzberg, oui, il y en a un. C'est le parti traditionnel de Kreuzberg qui représente Kreuzberg depuis plus de 20 ans.
C'est les Verts.
Les Grünen qui se sont fait l'écho, qui à mon sens n'ont pas cherché à instrumentaliser vraiment le mouvement de protestation, mais quand même qui se sont fait l'écho des habitants en portant jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire jusqu'au maire de Berlin, l'idée selon laquelle il fallait peut-être quand même essayer un tout petit peu d'encadrer ce phénomène touristique massif, parce que maintenant on a affaire à un tourisme de masse à Berlin, parce que sinon c'était au final les habitants qui avaient payé l'addition.
Et on a pris des mesures. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises, justement ? Vous faisiez référence tout à l'heure à la mairesse de Barcelone. Il y a effectivement eu des mesures drastiques. Est-ce qu'à Berlin, notamment, on a pris des nouvelles règles ?
Oui. Berlin, je crois, a été la première, il y a maintenant un peu plus d'un an, à prendre une mesure contre le fameux site internet Airbnb, donc de location d'appartements privés, qui était en train de poser un problème aux Berlinois, puisque au bout du compte, il y avait tout un tas d'appartements qui disparaissaient en fait du marché locatif, qui n'étaient plus mises en location, qui n'étaient plus proposées aux Berlinois, parce que leur propriétaire avait bien compris que en les mettant sur le site de Airbnb, c'était beaucoup plus rentable.
Oui, on a limité à Berlin les périodes de court séjour. C'est exactement ce qu'on est en train de penser ici pour Paris, d'ailleurs. Je vous passe la parole, Franz Stenbach.
Oui, simplement, petit complément d'information. C'est vrai qu'on parle beaucoup à chaque fois de régulation dès lors qu'on entend masse touristique ingérable, etc. Bon, heureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais un bon complément de la régulation, et c'est vrai que moi j'en suis un fervent défenseur, heureusement je ne suis pas tout seul, loin de là, la ville de Kreuzberg est adhérente, par exemple chez nous, au Pierrot de la Nuit, et justement on les accompagne sur des chartes locales, tripartites, donc riverains, professionnels de la nuit et collectivités, et je sais que c'est quelque chose qu'ils ont mis en place récemment, puisque cela fait 3 mois, je crois, qu'ils sont adhérents. On travaille vraiment beaucoup avec eux pour impulser ça et des principes concertatifs qui permettent déjà de dialoguer et d'échanger plutôt que d'être dans un clivage qui segmente et qui sépare encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc régulation et médiation, à mon avis, est quand même un duo intéressant. Et puis au-delà de ça, je pense que, enfin, je regrette un peu qu'aujourd'hui on parle essentiellement de la nuit et du tourisme nocturne comme quelque chose de véritablement néfaste avec une nécessité de surréguler, etc. Je pense au contraire qu'il y a de très belles opportunités, qu'en nivelant par le haut la qualité de l'offre locale, et c'est le cas dans beaucoup d'endroits, heureusement, aujourd'hui, ça commence à venir par le marché, d'ailleurs. Donc l'innovation par le marché et le nivellement par le haut de la qualité sont les premières réponses que l'on se doit d'apporter avec une prise en compte globale.
On va essayer d'y venir, Franz Stenbach, mais la réalité est aussi que le tourisme festif aujourd'hui, il est dans une forme d'aporie parce que effectivement, on a des modèles qui génèrent beaucoup de tensions sur la question du logement. On l'entendait, et que ce soit à Berlin, à Barcelone,
c'est vrai, mais
à Londres, etc.
Il y a effectivement des politiques publiques qui savent
évidemment
aussi
évidemment qu'il y a un gain touristique
commencer
considérable.
À gérer ça. Vous voyez ce que je veux dire.
On va y venir de toute façon. C'était prévu. Vous inquiétez pas.
C'est surtout
Dominique
Rosa. Si je peux me permettre.
Allez-y.
Voilà,
vous êtes
c'est surtout parce que on est resté depuis les années 80 sur un manque de politique publique. Donc on a l'impression d'une régulation très forte aujourd'hui, alors qu'il s'agit tout simplement de réguler à minima. Hein. C'est assez limité. On parle de politique drastique pour la maire de Barcelone. Pas du. Si on réfléchit dans la journée, la régulation par les services municipaux de la vie quotidienne des habitants, elle est beaucoup plus complexe depuis très longtemps. Donc c'est simplement que on est en train d'inventer des formes de gestion de la nuit. Alors ça apparaît nouveau parce que on a eu aussi tout un discours très libéral. Et là, c'est ce que disait Boris il y a quelques instants à Berlin, mais partout, la nuit c'était l'ouverture. Là, on faisait tout, n'importe quoi, n'importe comment, et sans aucune contrainte ou très peu de contraintes. Donc aujourd'hui, on est simplement en train d'apprendre une coordination. Il faudrait jeter un coup d'œil sur les villes italiennes, parce que eux ils sont concernés depuis longtemps par le tourisme et pas seulement festif. La régulation des flux dans les centres-villes, c'est eux qui ont inventé la régulation des bus, la régulation de la circulation dans les centres-villes historiques. C'est eux qui ont également les premiers affronté des manifestations. Il y a déjà 4-5 ans qu'on a eu les premières manifestations en Italie. Et c'est eux également qui sont confrontés avec le problème immobilier, soit donc le Airbnb. Et puis une autre dimension dont on parle peu, mais qui est très importante à Rome, à Venise, mais à Paris et à Londres de plus en plus également, c'est la vente d'appartements en part-time. C'est-à-dire que on propose d'acheter aux touristes d'acheter une résidence secondaire en part-time, 15 jours à Paris, 15 jours à Rome, vous pouvez avoir plusieurs résidences secondaires. Et ça,
honnêtement, pour les 18-35 ans qui sont quand même les premiers concernés, ça risque d'être un tout petit peu compliqué, mais j'entends que c'est des initiatives intéressantes. En tout cas, je remercie beaucoup Boris Grésillon qui était avec nous en direct depuis Berlin. Je rappelle, donc professeur à l'université d'Aix-Marseille et en ce moment chercheur associé au centre Marc Bloch et à l'université Humboldt de Berlin. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Franz Stenbach, vous disiez, il faut voir aussi, disons, la face la plus reluisante aussi du tourisme festif, et vous avez raison. Et vous avez participé, je le disais en début d'émission, à ce rapport commandé par le ministère des Affaires étrangères consacré à la mise en tourisme de nos territoires. Il y a 22 mesures destinées à faire de la vie nocturne un facteur d'attractivité touristique à l'international. Alors d'abord, le premier constat, c'est qu'effectivement, les autorités publiques se préoccupent, jusqu'au ministère des Affaires étrangères, de la place du tourisme dans l'économie nationale. J'apprends dans votre rapport que plus de 80 000 personnes travaillent dans le secteur de la nuit festive et culturelle assez directement, qui a un chiffre d'affaires colossal, qui est 1,4 milliard d'euros. Alors, on ne va pas continuer à dresser l'état des lieux, mais quelles sont finalement les principales mesures qui aujourd'hui pourraient nous permettre de développer une vie nocturne plus intense et qui serait susceptible, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, de faire venir des visiteurs?
Alors, effectivement, il y a, enfin, le travail, il est quelque part colossal, mais justement, c'est là aussi où il est intéressant. L'idée, c'est d'abord de resituer ou d'essayer de traiter la nuit un petit peu comme le jour, du point de vue des politiques publiques. Donc, évidemment, on en a parlé, hein, la régulation, quelque chose qui apparaît comme nécessaire. Il y a quand même des endroits où la nuit est surrégulée. N'oublions pas que pour un entrepreneur culturel d'un lieu, je pense, je prends des références comme la Bellevilloise ou la Gaîté Lyrique, etc., n'oublions pas que le premier interlocuteur, c'est le ministère de l'Intérieur. Et ensuite, on se retrouve à avoir plutôt Bercy que le ministère de la Culture, d'accord ? Donc il y a quand même aussi quelque chose, je pense, qu'il faut arriver à rétablir d'un point de vue plus, j'irais dans le principe, d'avoir une offre qui soit valorisée aussi quand on est entrepreneur, avec un ministère de tutelle qui est plutôt les affaires étrangères, le tourisme, la culture, sans, bien sûr, je ne suis pas là pour dire qu'il faut complètement déréguler. Je dis juste qu'il y a une hyper-professionnalisation et qu'aujourd'hui, nombre de la plupart, et la très grande plupart, si je peux m'exprimer comme ça, sont largement au-dessus du minimum requis. D'accord ?
Donc, s'agissant des mesures, il y en a 22. On ne va pas toutes les donner, mais allez, une forte qui vous semble vraiment indispensable justement pour développer la vie nocturne.
Alors, c'est amusant parce qu'à Amsterdam, ils l'ont testé. C'est justement l'ouverture continue distribuée au compte-gouttes sur certains établissements clés qui vont permettre de mieux gérer les flux touristiques, mais aussi d'avoir plus de créativité et d'inventivité dans les contenus. Hein. Donc toujours ce principe de nivellement par le haut de la qualité. Ça, c'est vrai que c'est une mesure pour nous qui nous apparaît comme essentielle. Également, je dirais que les politiques publiques assument pleinement l'aspect promotionnel et aussi le lien avec ses propres institutions de représentation, je dirais, à tout France, tous les organismes, vous voyez ce que je veux dire, qui font la promotion des valeurs françaises à l'étranger, qu'elles soient culturelles ou autres ou commerciales. Eh bien, il faut quand même arriver à relier les opérateurs touristiques avec les opérateurs culturels. Voilà, pour assumer véritablement une chose qui est très simple. Je prends Paris, puisque Paris est une ambassadrice, évidemment, c'est la capitale, la ville qui a le plus d'autorisations de nuit. Il y a plus de 10 000 établissements de nuit qui ont l'autorisation. En comparaison, Barcelone en a un petit peu plus de 3 000 et Berlin moins encore. Donc juste, on n'a pas à rougir en termes d'offres, de possibilités d'accueil. Simplement, il faut savoir aussi le valoriser.
On a des véritables forces, mais il y a encore une marge de progression. Merci beaucoup en tout cas. Les 22 propositions, les 22 mesures, on peut les retrouver de toute façon sur le rapport qui est proposé sur le site du ministère des Affaires étrangères. 22 mesures pour faire de la vie nocturne un facteur d'attractivité touristique à l'international. On mettra peut-être un petit lien sur le site de Culture Monde. Merci beaucoup, Franz Tenbach, d'avoir été avec nous. Un grand merci également à Dominique Crozat, qui était avec nous depuis Montpellier. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis ce duplex. Et je rappellerai également votre ouvrage, Dominique Crozat, que vous avez co-dirigé, La fête au présent, mutation des fêtes dans le temps, des loisirs, qui avait été publié chez L'Harmattan. Heures passées de presque 53 minutes, le temps de retrouver pour nous Brice Couturier, le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on parle depuis le début de la semaine avec vous des Pays-Bas. Le résumé des chroniques précédentes, il existe entre la Pologne et la Lituanie une enclave russe, Kaliningrad, l'ancienne Königsberg de Kant, attribuée à l'URSS à Yalta en tant que tribu de guerre. C'est le siège du quartier général de la flotte russe de la Baltique. Les trois petits états baltes qui ont été annexés par l'URSS après la guerre mais ont rejoint l'OTAN craignent de faire l'objet d'un grand marchandage entre Poutine et Trump. Leurs craintes sont-elles fondées?
Oui Florian, oui, parce que de manière générale, les enclaves, ou plutôt pour être tout à fait précis, l'exclave de Kaliningrad, c'est-à-dire un morceau de territoire national isolé et sans continuité territoriale avec l'État auquel il appartient, eh bien, ça crée toujours des problèmes. Souvenons-nous du terrible précédent de la Prusse orientale, isolée du reste de l'Allemagne par le couloir de Danzig. Afin de donner à la Pologne ressuscitée après la Première Guerre mondiale un accès à la mer, les puissances victorieuses avaient coupé l'Allemagne en deux. Königsberg, d'ailleurs l'actuel Kaliningrad, faisait partie de cette Prusse orientale coupée du reste de l'Allemagne. Cette situation inextricable a servi de prétexte à Hitler pour envahir la Pologne en septembre 1939. Aujourd'hui, l'exclave de Kaliningrad est reliée à la Russie par un couloir ferroviaire qui traverse la Lituanie. L'oblast russe est aussi alimenté en électricité par une ligne à haute tension et récemment, l'ancien premier ministre lituanien Andrikus Kubilius disait au Washington Post son inquiétude concernant ses infrastructures russes traversant son pays. Une provocation peut servir de prétexte à une intervention militaire. Les frontières entre la Lettonie, l'Estonie et la Russie, entre la Lituanie et cette enclave russe de Kaliningrad sont la ligne de front de la nouvelle guerre froide, lit-on dans la revue américaine Foreign Affairs. En effet, non seulement l'oblast de Kaliningrad est sans doute l'une des régions les plus militarisées de la planète, mais les incidents aériens impliquant des avions russes se multiplient depuis quelque temps dans cette région, au-dessus des pays baltes, mais aussi au-dessus de la Suède et de la Finlande. Moscou n'a cessé de renforcer ses troupes et ses arsenaux dans cette enclave. La Russie a notamment installé à Kaliningrad des missiles Iskander à capacité nucléaire qui menacent l'Europe, ainsi que des systèmes anti-aériens et anti-missiles S-400. Une erreur d'interprétation, d'un côté ou de l'autre, est susceptible de déboucher à tout moment sur une escalade menant à un conflit entre l'OTAN et la Russie. Et cette situation s'avère extrêmement dangereuse.
Oui, alors quel est le point de vue de la Russie sur cette question?
Du côté russe, on assure que le contrat passé entre George Bush et Boris Yeltsin, lorsque celui-ci a proclamé la dissolution de l'Union soviétique, prévoyait qu'aucune des ex-républiques soviétiques ne devait être admise dans l'OTAN. Or, les trois républiques baltes ont rejoint l'OTAN et l'Union européenne la même année, en 2004. Je remarque que Nina Khrushcheva, la petite fille du premier secrétaire Nikita Khrushchev, qui vit aux États-Unis, écrit ces derniers temps sur Project Syndicate que Poutine, lors des premières années de sa présidence, voulait réellement faire partie de l'Occident. Et c'est l'entrée des trois États baltes dans l'OTAN qui l'aurait braqué, au point de le convaincre d'adopter vis-à-vis de l'Occident une posture de défi. Les Russes font valoir que leur budget de la défense est à peu près 10 fois inférieur à celui des États-Unis. Et Poutine a déclaré l'an dernier au Corriere della Sera, seul un dément et seulement en rêve peut imaginer que la Russie pourrait se lancer soudain dans une attaque contre l'OTAN. Et il a justifié la multiplication des exercices militaires en Russie et à Kaliningrad comme autant de réponses à l'extension de l'OTAN aux frontières occidentales de son pays. La Russie croit de moins en moins à la possibilité d'une vraie détente avec les États-Unis, alors que Moscou avait beaucoup espéré de Trump à cet égard. Le remplacement au poste de conseiller à la sécurité nationale de Michael Flynn par le général McMaster a fait l'effet d'une douche froide à Moscou. Flynn était connu pour ses liens étroits avec la Russie, c'est du reste ce qui a provoqué sa chute. McMaster, lui, est beaucoup plus circonspect. Il a récemment déclaré « Le but de Poutine est de faire capoter l'ordre d'après la guerre froide afin de le remplacer par quelque chose de plus agréable aux intérêts de la Russie ». Or, c'est précisément ce que refusent la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, trois petits États qui ont le désir de continuer à faire partie de l'Europe et sont bien décidés à ne pas retomber dans l'orbite russe. Sur l'une des principales place de Vilnius, capitale de la Lituanie, on peut voir une plaque où est gravée une phrase prononcée par George W. Bush. « Quiconque choisirait pour ennemi la Lituanie se ferait également un ennemi des États-Unis ». Les Baltes tremblent à l'idée que cette garantie de sécurité promise par un président américain pourrait être retirée par le nouveau président. Interrogé sur la portée de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord qui stipule que toute attaque contre un des signataires sera considérée comme une attaque par tous les autres, Donald Trump s'est toujours dérobé. Mais remarquons que Newt Gingrich, l'artisan de la victoire des Républicains au Congrès en 1994, qui continue de jouer un rôle important au sein de ce parti, a déclaré l'an dernier, je le cite, « L'Estonie est un faubourg de Saint-Pétersbourg. Les Russes ne vont pas nécessairement franchir militairement la frontière. En tout cas, moi, je ne risquerai pas une guerre nucléaire pour un endroit situé dans les faubourgs de Saint-Pétersbourg. Nous devrions y penser à deux fois. » On imagine l'effet produit par de tels propos sur les habitants des pays baltes.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette nouvelle chronique sur les pays baltes. J'indique que vous en aviez déjà réalisé lundi et mardi, qu'on peut les retrouver bien sûr sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. On continuera ces pérégrinations du côté des pays baltes, ce sera demain. Mais pour l'heure, dans quelques instants, on retrouve la grande table avec Olivier Gesbert.